L'actualité francophone en Belgique, le ministre des Affaires étrangères s'excuse d'avoir permis à l'Arabie Saoudite de devenir membre du Conseil des droits des femmes de l'ONU. En France, la justice somme l'État d'agir dans les 3 mois pour assurer un minimum d'hygiène dans une des plus grandes prisons du pays, à Fresnes. Le Canada, confronté aux conséquences sociales et financières du vieillissement de la population, la Suisse et le sort d'un de ses ressortissants, arrêté en Allemagne, accusé d'espionnage fiscal. En Afrique, les absences pour raisons de santé du président du Nigeria, inquiétude sur son état de santé. D'abord, les personnalités de la semaine. En Belgique, Anne Goderniau, un leader politique mis en avant bien malgré lui à l'occasion d'un 1er mai agité.
Oui, et ce leader politique, c'est Raoul Edebo, la figure emblématique du PTB, le Parti du Travail de Belgique. Lundi, peu de temps avant de prendre la parole sur une place à Liège, il a été agressé au couteau, agressé par un homme qui l'a poignardé à la jambe. Alors rapidement, l'agresseur a été arrêté, mais avant d'être transporté à l'hôpital, Raoul Edebo a tenu à prononcer son discours comme prévu. Il a même déclaré « il en faudra plus pour nous faire taire ». Raoul Edebo se veut le porte-parole de ce qu'il appelle le retour aux vraies valeurs de la gauche. Il entend à l'évidence surfer sur ce qui se passe dans d'autres pays européens et réclame haut et fort la semaine des 30 heures. Aujourd'hui, celui que l'on présente comme le Mélenchon belge a le vent en poupe. Selon un sondage récent, en Wallonie, dans le sud du pays, le PTB obtiendrait plus de 20% des voix et supplanterait le Parti socialiste.
Au Canada, Benoît Audet, vous avez choisi le ministre de la Défense.
Oui, il s'appelle Arjit Sajjan, il est ministre de la Défense. Avant, il était lieutenant-colonel dans l'armée. Il a participé à la guerre en Afghanistan et au cours d'un discours il y a 2 semaines, il a déclaré qu'il était l'architecte d'une grande bataille menée contre les talibans en 2006. Ce n'est pas la réalité. Il était reconnu comme un excellent agent de renseignement lors de cette bataille, mais pas comme le cerveau derrière l'opération. Arjit Sajjan a présenté ses excuses, mais pour l'opposition officielle, ce n'est pas suffisant. On réclame sa démission.
En France, l'homme de la semaine, Tristan Carnet, 46 ans, le réalisateur mercredi soir du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les finalistes de la présidentielle. Il avait 14 caméras pour montrer ce pugilat qui a duré 2h30. Tristan Carnet a obtenu des 2 participants le droit de faire des plans de coupe. Pendant qu'un candidat parle, on voit la réaction de l'autre. Il a aussi proposé un écran divisé en 2. C'est du jamais vu lors d'un débat présidentiel. Son objectif, il le dit, montrer aux téléspectateurs ce qu'il aimerait voir s'il était sur le plateau. Tristan Carnet, un habitué des joutes politiques, les partis lui font confiance. Il a réalisé les débats de second tour, des primaires à droite et à gauche. En Afrique, Charlotte Hydrac, portrait de la semaine, Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso.
Et grand absent du procès qui se tient à Ouagadougou, le procès de quasiment tout un gouvernement, son dernier, comme une trentaine de ministres, Blaise Compaoré est poursuivi pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime en octobre 2014. Mais l'ancien président, resté 27 ans au pouvoir, vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs obtenu la nationalité ivoirienne, ce qu'il protège puisqu'Abidjan n'extrade pas ses ressortissants.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, vous avez retenu la ministre de l'Éducation du canton de Thurgovie.
Monica Knill s'est battue, mais elle a perdu. Le parlement de son canton, situé en Suisse orientale, en clairement germanophone, a décidé de supprimer l'enseignement du français à l'école primaire. Sujet hautement sensible pour la paix des langues. La majorité a bien sûr souligné que c'était pour mieux l'apprendre, mais plus tard dans le cursus scolaire. Cette décision remet toutefois en question le compromis négocié entre les cantons pour garantir la pratique d'une deuxième langue nationale. Monica Knill, elle, compte encore sur une potentielle décision populaire pour sauver l'enseignement précoce du français.
L'actualité en Belgique, Anne Goderniau, un ministre du gouvernement fédéral, présente des excuses.
Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, s'est retrouvé au cœur de la tourmente après que la Belgique ait voté en faveur de l'entrée de l'Arabie Saoudite au sein de la Commission des droits des femmes de l'ONU. Avant d'expliquer comment les choses se sont passées, il a exprimé des regrets.
Je présente mes excuses à toutes celles et tous ceux qui se sont sentis sincèrement heurtés, choqués à l'annonce de la décision prise au sein de l'ECOSOC.
Des excuses donc, mais aussi 4 heures d'audition au cours desquelles le ministre a expliqué qu'il n'était pas au courant, que ce vote était en fait une procédure automatique, une procédure qui ne serait plus appliquée désormais, Didier Reynders, qui ne s'est pas arrêté là. Pour lui, c'est le moment de mettre à plat les relations entre les deux pays.
À titre personnel, je suis d'avis que le gouvernement fédéral ne doit plus participer à des missions économiques en Arabie Saoudite sans une vraie évaluation des droits humains constatée par le gouvernement et par votre assemblée. Aux régions de décider si elles veulent ou non en mener de leur côté.
Plus de missions économiques et plus de ventes d'armes, bref, de gros intérêts en jeu qui concernent donc directement les régions, ce qui a fait dire à certains observateurs qu'il n'y a pas de meilleure défense que l'attaque.
Au Canada, ce grand changement démographique avec le recensement 2016, pour la première fois, les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans. Benoît Audet, c'est vraiment une tendance lourde.
Oui, jamais le groupe des 65 ans et plus n'avait connu une aussi forte progression qu'entre 2011 et 2016, et cette tendance n'est pas près de ralentir. Voici Laurent Martel de Statistique Canada.
Mais je dirais que le Canada, qui est une population relativement jeune lorsqu'on la compare, par exemple, aux autres pays du G7, va vieillir plus rapidement que la plupart des autres pays du G7, si bien que dans une quinzaine d'années, autour de 2031, quand les derniers nés du baby-boom atteindront l'âge de 65 ans, mais en gros, le Canada aura rattrapé le retard qu'on a actuellement sur les pays de l'Europe de l'Ouest.
Benoît Audet, ce bouleversement démographique a bien sûr des conséquences sociales et économiques.
Oui, la population active est en baisse, donc il y a de moins en moins de travailleurs disponibles dans un contexte où il y a des pénuries d'emplois dans plusieurs secteurs. Il y a aussi une forte pression sur le système de santé, mais il y a quand même de bonnes nouvelles si les gens âgés sont de plus en plus nombreux, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps et en bonne santé. Au Québec, d'ailleurs, de nouvelles données sont sorties cette semaine. L'espérance de vie des Québécois a bondi. Les femmes vivent en moyenne jusqu'à 84 ans et demi, et pour les hommes, c'est près de 81 ans.
L'Afrique avec Charlotte Hydrac, gros plan sur un tabou, l'état de santé des présidents africains.
Un sujet sensible relancé au Nigeria où le chef de l'État ne s'est pas présenté au Conseil des ministres mercredi pour la troisième fois d'affilée. Mouhamadou Bouhari, 74 ans, s'était déjà absenté 2 mois en début d'année pour un séjour médical en Grande-Bretagne. Les autorités ne disent rien sur son état de santé et cela suscite toutes sortes de rumeurs. Cette semaine, des personnalités de la société civile ont publié une lettre ouverte appelant le président à se mettre en congé du pouvoir. Femi Falana, ancien président du barreau de l'Afrique de l'Ouest et l'un des signataires.
Il y a beaucoup d'incertitudes et de rumeurs. Le fardeau de ses fonctions est tel que le président devrait pouvoir prendre un congé maladie. Soit il va bien et il s'acquitte de ses tâches au sommet de l'État en se rendant au bureau, soit il va mal et il reste à la maison sur les conseils de son médecin. J'espère que le président prendra ses conseils au sérieux parce que le temps joue contre lui.
Polémique donc au Nigeria, en Algérie. Aussi, Charlotte Hydrac, l'état de santé du président fait régulièrement l'objet de spéculations.
Abdelaziz Bouteflika, 80 ans, est apparu en public ce jeudi. C'est très rare pour aller voter aux législatives. Le chef de l'État se déplace en fauteuil roulant depuis un accident vasculaire cérébral en 2013. Ses opposants ne cessent de dénoncer la vacance du pouvoir. Il ne prend plus la parole, contrairement au doyen du continent, Robert Mugabe, au Zimbabwe, 93 ans.
En France, évidemment, ce week-end, le deuxième tour de l'élection présidentielle, l'heure de la réflexion, du choix pour les électeurs. Selon les règles de l'audiovisuel chez nous, on ne revient pas sur ce sujet maintenant. La campagne électorale est terminée. L'actualité a aussi été marquée cette semaine par une décision de justice concernant une prison, celle de Fresnes, près de Paris, une des plus grandes de l'Hexagone. 2500 détenus, prison remplie à presque 190% de sa capacité. Des centaines de prisonniers vivent à 3 par cellule dans des conditions d'hygiène épouvantables, avec la présence de rats et de punaises de lit. Tout au long de la journée, on voit des rats au pied des bâtiments. L'odeur persistante de leur pelage, de leurs excréments et de leurs cadavres s'ajoute à celle des amas d'ordures qui jonchent les cours de ce centre de détention. Le tribunal administratif de Melun en Seine-et-Marne, saisi de cette situation, exige que les rats soient éradiqués sous 3 mois ou en tout cas, je cite l'ordonnance du tribunal rendue mercredi dernier, que leur nombre soit substantiellement diminué. La direction de la prison affirme qu'elle dépense 25 000 euros chaque mois pour lutter contre ces nuisibles. Le tribunal répond que ces mesures doivent être amplifiées. Oui, cela se passe en France, un des pays les plus riches du monde. En 2017, l'état de nos prisons, la surpopulation carcérale, un problème sans solution depuis des dizaines d'années. Tout récemment, la directrice de la maison d'arrêt de Villepinte annonçait qu'elle n'accueillerait plus de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%, tandis que des gardiens manifestaient leur colère pour dénoncer leurs conditions de travail dégradantes et de plus en plus dangereuses. En avril, on comptait 70 000 personnes détenues en France pour 58 670 places opérationnelles. La Suisse, Pierre Enchauffat, une affaire d'espionnage retient l'attention. Un espion suisse a été arrêté en Allemagne la semaine dernière.
Une affaire en lien avec les derniers sursauts du secret bancaire. Les activités de ce barbouze sur territoire allemand remontent aux années 2011-2014. Cet homme mandaté par les services de renseignement devait aider les autorités d'enquête suisses à poursuivre les auteurs des transactions sur des données bancaires volées. Il faut dire que le fisc allemand s'était alors montré très friand des informations sur leurs contribuables pratiquant l'évasion fiscale.
Et durant ces années, les tensions étaient vives entre la Suisse et l'Allemagne.
Oui, car les lenders payaient cher pour obtenir ces CD volés dans des banques suisses, des violations crasses du secret bancaire selon les partis du centre droit, un activisme qui appelait une réplique forte du point de vue helvétique et on le sait désormais, cette action de contre-espionnage a bien été validée au plus haut niveau par le chef du département de la Défense dont dépendent les services de renseignement.
Alors du coup, Pierre Enchauffat, cet espion pourrait tendre à nouveau les relations entre Berne et Berlin.
Oui, l'ambassadrice de Suisse a rapidement été convoquée. Les deux ministres des Affaires étrangères ont déjà échangé par téléphone dans le but précisément d'éviter que cette affaire ne provoque une escalade. Alors que l'Allemagne entre en campagne électorale, remettre la question de la fraude fiscale et le rôle de la Suisse sur le devant de la scène, eh bien cela pourrait servir les intérêts des sociodémocrates. Sauf que la question est désormais tranchée. L'échange automatique de renseignements fiscaux est en vigueur avec les États membres de l'Union européenne et les premières données bancaires seront transmises en 2018, ce qui devrait aider à calmer le jeu.
C'était l'actualité francophone. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org. À la semaine prochaine.